France Culture, il est 12h30. L'heure des informations avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. En dépit de la trêve humanitaire décrétée par la Russie en Syrie, des combats au sol se poursuivent ce matin dans la province de la Ghouta orientale. Moscou rejette la faute sur les groupes insurgés, suivi dans un instant de Valérie Crova. Après 3 jours de fermeture, le Saint-Sépulcre a rouvert ses portes ce matin à Jérusalem. Le gouvernement israélien avait peu avant suspendu la collecte des taxes, correspondant à cette explication d'Étienne Monin. Jared Kushner, le gendre et proche conseiller de Donald Trump, perd son droit d'accès aux dossiers les plus confidentiels de la Maison-Blanche. Décision qui intervient à quelques jours d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Commentaire dans cette édition avec Nadine Epstein. L'actualité en France, le conflit en gestation toujours à la SNCF avec la ministre des Transports Elisabeth Borne, qui affirme que la concertation sera malgré tout, malgré les ordonnances, privilégiée. Les syndicats se disent, eux, gonflés à bloc. Précision de David Ravier, analyse politique de Stéphane Robert. Un groupe de travail parlementaire remet un rapport sur le harcèlement sexuel dans les lieux publics et propose notamment de créer une nouvelle infraction, l'outrage sexiste et sexuel, compte rendu, explication de Mélodie Vialet. Le parquet de Pontoise ouvre une information judiciaire pour viol dans l'affaire initialement qualifiée d'atteinte sexuelle qui visait un homme de 28 ans pour une relation avec une préadolescente de 11 ans. Dossier suivi par Antoine Maret. Et puis après plusieurs mois de bras de fer, le caractère antisémite dans le meurtre de Sarah Halimi à Paris, c'était en avril de l'année dernière, a été retenu par la juge d'instruction, explication de Florence Turme dans la dernière partie de la Grande Dame. Raphaël Bourgois.
Eh bien écoutez Antoine, on va boucler la boucle d'une rentrée sous le signe de Pierre Bourdieu et Michel Foucault, puisqu'on reçoit Christian Laval qui publie Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, son dernier essai publié aux éditions La Découverte.
Les forces gouvernementales syriennes continuent donc de gagner du terrain ce matin dans la Ghouta orientale, malgré la pause humanitaire qui était censée tenir quelques heures encore jusqu'à 14 heures pour permettre aux populations civiles de quitter la zone. Mais pour l'instant, donc, personne ne semble pouvoir sortir. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, soutient que ce sont les rebelles qui sont retranchés dans cette même Ghouta orientale qui bloquent l'aide humanitaire et aussi les évacuations. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Ah, il faut rappeler tout de même, malgré le désastre humanitaire auquel on assiste, que cette offensive sur la Ghouta est bien le résultat d'une stratégie militaire bien définie de la part du régime de Damas et que cette stratégie, cette offensive, présente aussi des précédents dans ce conflit syrien.
Oui, des précédents avec à chaque fois un seul et même objectif, que les rebelles rendent les armes. Souvenez-vous, la vieille ville de Homs en 2015, la dernière poche tenue par les combattants anti-Assad tombe après des semaines de bombardements. Une trêve est négociée, mais sur le plan local, ce sont en effet des conseils locaux qui traitent avec les groupes armés. Les derniers combattants partiront en bus pour un quartier situé en dehors de Homs. Août 2016, Daraya tombe. Cette ville située à quelques kilomètres de Damas comptait 200 000 habitants en 2010. Il n'en restera que 10 000 après des mois de bombardements. Plusieurs accords de réconciliation sont conclus entre les autorités et les combattants anti-régime, mais ces accords voleront en éclats. On ne parle pas de trêve. Les derniers rebelles sont contraints à la capitulation. Ils seront emmenés à Idlib avec leur famille. C'est à Alep qu'une trêve est véritablement négociée avec les Russes qui sont partie prenante. Le siège commencé en juillet prend fin en décembre après une offensive majeure de l'armée syrienne et de son allié qui aboutit à une sortie des groupes rebelles de la partie est de la ville et des milliers de civils qui y vivaient encore. Les derniers combattants sont acculés et dans l'impossibilité de riposter face au déluge de feu qui s'abat sur eux. C'est le même scénario qui se passe actuellement dans la Ghouta, sauf que les groupes armés encore sur place sont peut-être mieux équipés que ceux d'Alep, même s'ils ne reçoivent plus d'armes depuis le siège. Ont-ils la capacité d'engager une bataille contre les forces loyalistes ou de résister longtemps? C'est toute la question.
Merci beaucoup Valérie Crova. Après 3 jours de fermeture, le Saint-Sépulcre a rouvert ses portes ce matin à Jérusalem. Les chefs des églises chrétiennes ont pris cette décision après l'annonce, c'était hier, par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, de suspendre finalement la collecte des taxes, mais aussi l'examen d'une proposition de loi controversée qui avait entraîné en tout cas la colère des églises. On est en ligne avec Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi d'abord ce recul, donc apparemment, du gouvernement israélien sur ce point?
Parce que le front était trop soudé et la mesure trop radicale. Ce sont les trois principales églises qui gèrent les lieux saints qui se sont soulevés et elles ont utilisé l'arme ultime, la fermeture du lieu le plus important dans la chrétienté, ce qui n'est arrivé que trois fois en une trentaine d'années. Le risque pour le gouvernement israélien, c'était de rayer l'image du garant des libertés de culte qu'il cultive pour justifier la souveraineté revendiquée sur Jérusalem. Il a donc rapidement fait marche arrière, mais les ressorts de la crise sont toujours là. Les églises se sentent menacées par l'action du gouvernement et par les radicaux en Israël, et c'est maintenant exposé au grand jour.
Alors, cette mesure de fermeture du Saint-Sépulcre n'a que de rarissimes précédents au cours du quart de siècle écoulé. Elle est à la mesure, évidemment, des crispations qu'entendent exprimer les chefs des églises et aussi des enjeux géopolitiques qui touchent finalement toutes ces questions de propriété à Jérusalem.
Et il y a en fait aussi derrière un effet de ciseau, c'est ce qui a créé le front uni, parce que c'est assez rare que toutes les églises soient comme ça soudées. Il y a un premier contentieux, il est d'ordre fiscal, il touche toutes les églises, il est provoqué par la municipalité de Jérusalem. Et puis il y a le contentieux sur les terres des églises circonscrites au départ aux propriétés de l'église grecque orthodoxe. Pour faire court, les grecs orthodoxes vendent à tour de bras en Israël, cela remonte à 2010, la touche à un certain nombre de quartiers, dont des quartiers chics de Jérusalem, et cela met en péril les propriétés de plus d'un millier d'Israéliens menacés par ces ventes. Les députés ont été sollicités, ils ont cherché une solution, ils veulent protéger les habitants. Un texte de loi a été rédigé par une députée de centre-droite, mais il est de nature radicale. Il permet d'exproprier les églises pour prévenir les ventes à des privés. Le terrain était trop glissant, la confiance trop érodée. Les églises ont dénoncé une loi discriminatoire. Elles se sont comparées aux juifs spoliés par les nazis. Il y a dans cette affaire les ingrédients d'un incendie que le gouvernement a rapidement cherché à étouffer.
Étienne Monin, merci beaucoup, en direct de Jérusalem. Jared Kushner, le gendre et proche conseiller de Donald Trump, fait-il l'objet d'une disgrâce ou bien est-ce simplement une mesure de précaution? En tout cas, il vient de perdre son droit d'accès aux dossiers les plus confidentiels à la Maison-Blanche. John Kelly, le secrétaire général de la présidence, se borne à lui réaffirmer ce matin sa confiance. Il reste que cette décision intervient à quelques jours seulement d'une visite du Premier ministre israélien qui est prévue pour le 5 mars à Washington, Nadine Epstein.
Le mari d'Ivanka Trump, fille aînée du président, n'avait aucune expérience politique avant la campagne électorale de son beau-père. Riche homme d'affaires de 36 ans, il a hérité de son père d'un mini-empire immobilier comme Donald Trump. Nommé haut conseiller à la Maison-Blanche dès le 20 janvier 2017, Jared Kushner est chargé des dossiers mexicains et israélo-palestiniens. Il pouvait accéder aux informations les plus sensibles, mais cette autorisation temporaire d'un an vient de lui être retirée. Selon le Washington Post, au moins quatre pays, vraisemblablement la Russie, le Mexique, Israël et les Émirats Arabes Unis, ont réfléchi à la manière de profiter de l'inexpérience en politique étrangère de Kushner et de ses arrangements commerciaux complexes pour le manipuler. D'ailleurs, c'est pour cela que Kushner n'a pas obtenu d'habilitation de sécurité permanente. Un conseiller à la sécurité nationale explique que le gendre de Trump n'avait pas signalé avoir eu des contacts avec des personnalités étrangères. Dès lors, avec, entre guillemets, ce déclassement, Kushner pourra-t-il vraiment tenir son rôle de haut conseiller politique sans avoir accès aux secrets gouvernementaux et autres informations et opérations des agences de renseignement? Comment discutera-t-il de paix au Proche-Orient avec les puissances de la région sans être au courant d'informations sensibles sur ses interlocuteurs? Le rôle de Kushner pourrait en effet être limité dans les délibérations politiques les plus importantes. Certaines mauvaises langues s'interrogent même sur son départ de la Maison-Blanche. Pour l'heure, Donald Trump, déjà sous les critiques de népotisme pour avoir embauché à ses côtés des membres de sa famille, ne risquait-il pas d'être le premier à pâtir d'avoir nommé son gendre à un poste pour lequel il était non seulement pas qualifié, mais aussi risqué d'être compromis par des puissances étrangères?
Merci beaucoup, Nadine Epstein. L'événement européen de cette fin de semaine, ce seront les élections en Italie. C'est donc ce dimanche 4 mars. La coalition droite-extrême droite est en tête. Elle rassemble, rappelons-le, les principalement Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini, ainsi que Fratelli d'Italia. C'est également à l'extrême droite de l'échiquier. Derrière, il y a le Parti 5 étoiles, créé par Beppe Grillo, maintenant en 2009, qui propose un programme en 20 points pour la qualité de la vie des Italiens, dont l'Europe est absente après l'abandon de l'idée d'un référendum sur une sortie de l'euro. Et puis vient une coalition de centre-gauche qui semble en perte de vitesse. Olivier Tosserie, les partis en tout cas peinent à mobiliser les électeurs.
Ni une campagne terne, ni les promesses irréalisables de baisse massive des impôts ou d'expulsion immédiate de 600 000 immigrés clandestins n'auront réveillé l'enthousiasme des Italiens. À quelques jours des législatives, un tiers des électeurs sont encore indécis et l'abstention, surtout chez les jeunes, devrait battre de nouveaux records. L'offre n'a en effet rien d'enthousiasmant. Un mouvement 5 étoiles dont les dirigeants sont inexpérimentés et qui refuse toute alliance pour gouverner. Un éternel Silvio Berlusconi, âgé de 81 ans, qui mène sa 7e campagne électorale, 24 ans, après la toute première. Matteo Salvini, son allié, leader populiste de la Ligue s'inspirant du Front National de Marine Le Pen, et enfin une gauche profondément divisée avec un parti démocrate dirigé par Matteo Renzi, devenu impopulaire. La loi électorale, complexe, et des partis traditionnels décrédibilisés ne devraient pas donner un vainqueur clair. Le président de la Commission européenne s'attend au pire scénario avec un gouvernement qui ne sera pas opérationnel. Les négociations pour le faire naître s'annoncent déjà longues et difficiles.
Nous saluons l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Christian Laval, sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Un petit mot peut-être sur ces élections en Italie, parce qu'on est assez surpris de voir que c'est Silvio Berlusconi qui vient maintenant s'ériger en rempart, finalement, contre le populisme, contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous inspire cette situation politique ?
Moi, je trouve qu'on ne devrait pas s'étonner. Un vent mauvais souffle sur toute l'Europe. Un grand nombre de gouvernements sont composés de gens d'extrême droite. Près de chez nous, en Hollande, en Pays-Bas, en Belgique. Et au fond, l'Italie semble suivre la voie européenne standard, si je puis dire, et rejoindre tous ces pays, finalement, qui connaissent des phénomènes xénophobes, racistes, avec une poussée de l'extrême droite. C'est la conséquence, pour moi, des politiques qui ont été menées depuis très longtemps, des politiques d'austérité. Au fond, puisqu'il s'agit de l'Italie, on peut citer Gramsci, qui disait que précisément les périodes de crise, et là, il s'agit vraiment d'une période de crise de la démocratie, libéral, ces périodes de crise engendrent des monstres. Des monstres qu'on pourrait appeler des monstres ethno-identitaires. Et c'est ce qui se passe malheureusement en Italie.
En tout cas, la crainte de ce raz-de-marée populiste qui emporterait l'Union européenne et l'euro renaît donc effectivement à l'approche de ces élections. D'autant que le scrutin coïncide avec la proclamation du résultat du référendum interne au parti social-démocrate allemand sur l'accord de gouvernement avec les chrétiens démocrates, dont l'issue d'ailleurs est toujours relativement incertaine. En tout cas, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, déclarait la semaine dernière, lors d'une conférence à Bruxelles, « Nous devons nous préparer au scénario du pire qui pourrait être de ne pas avoir de gouvernement opérationnel en Italie ». Merci Christian Laval, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. L'actualité en France avec ce conflit toujours en gestation. À la SNCF, les syndicats décident d'attendre donc jusqu'au 15 mars pour arrêter une éventuelle date de grève. Le gouvernement qui doit déposer, lui, à la mi-mars, son projet d'habilitation à recourir aux ordonnances. Entre-temps, il y a une période donc de 15 jours qui s'ouvre. Personne n'a intérêt à une grève dure à la SNCF, affirmait ce matin la ministre Elisabeth Borne sur Europe 1. Et elle répétait qu'elle privilégiait, elle, la concertation.
La méthode, c'est qu'il y a à la fois urgence à avancer et en même temps, la volonté du gouvernement, c'est la concertation. Il va y avoir 2 mois de concertation, il va y avoir 3 mois de débat parlementaire, mais les deux vont avancer parallèlement. Et c'est la concertation qui va nourrir le débat parlementaire. Et on l'a dit, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, alors on mettra dans la loi les dispositions à la place des ordonnances. Personne n'a intérêt à un mouvement dur à la SNCF. Engageons la concertation dès demain.
Elisabeth Borne avec Maxime Switek. Et puis du côté des syndicats, eh bien on se dit gonflé à bloc. Ainsi, Philippe Martinez de la CGT, invité ce matin de France 2.
Pour revenir sur l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est la question de la réforme. La première chose, c'est, je trouve proprement scandaleux cette... C'est ce qu'entretient le gouvernement et le président de la République qui consistera à dire que d'avoir une convention collective, un statut, c'est un privilège. Les cheminots ne sont pas des privilégiés. Faites des reportages, et je sais que vous en faites, sur les conditions de travail, sur le salaire des cheminots. Les salaires sont mal payés. Et quand on est mal payé tout au long de sa carrière, on a une petite retraite. De laisser penser que les cheminots seraient des privilégiés, c'est proprement scandaleux. Et ça permet de détourner le problème sur l'essentiel qui est la réforme.
Philippe Martinez, donc avec Guillaume Daret. Bonjour David Ravier.
Bonjour Antoine.
Première ronde, 15 jours qui commence donc, et on voit mal comment un accord pourrait bien être trouvé dans ce très court délai.
Oui, puisqu'il y a très peu de rendez-vous entre les syndicats et le gouvernement d'ici au 15 mars. Demain, les syndicats doivent rencontrer la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ce qui va être leur première approche avec l'exécutif depuis les annonces d'Edouard Philippe en début de semaine. La deuxième réunion doit se tenir lundi prochain, toujours avec Elisabeth Borne, pour expliquer les première piste retenue par le gouvernement. La subtilité de ces deux rencontres, c'est qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de place pour le dialogue, puisque les syndicats seront reçus un par un par la ministre et qu'elle devrait simplement leur expliquer le déroulé du calendrier de la réforme. Entre-temps, les quatre organisations syndicales ont demandé à discuter avec la direction de la SNCF, ce qui, là non plus, n'est pas sûr d'aboutir.
Donc on va tout droit apparemment aux ordonnances, quel serait le calendrier le plus probable?
Oui, c'est le chemin qui semble se dessiner en effet. Et la date qui va cristalliser toutes les attentes, c'est celle du 14 mars, moment où le gouvernement doit normalement déposer son projet de loi d'habilitation devant le Parlement en vue de faire passer la réforme par ordonnance. Si cela devait arriver, les syndicats ont déjà prévenu que c'était la ligne rouge à ne pas franchir si le gouvernement ne voulait pas se retrouver avec une grève massive sur les bras. Si jamais l'exécutif persiste dans son idée de passer cette réforme par ordonnance, les quatre organisations déposeront alors le lendemain un préavis de grève dont on ne connaît pour l'instant ni la durée ni la date de commencement.
David Ravier, merci beaucoup. En tout cas, le gouvernement semble avoir décidé de passer en force. Un calendrier des réformes a été établi, on le sait, pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Comment s'inscrit, Stéphane Robert, cette bataille du rail dans la stratégie globale du gouvernement ?
En tant qu'héritier d'Alain Juppé, Édouard Philippe a tiré les leçons de ce qui s'était passé en 1995. Son mentor, l'actuel maire de Bordeaux, alors Premier ministre, avait voulu mener de front une réforme des retraites et de la SNCF. Résultat, on avait eu un mois de grève, la France paralysée et le gouvernement contraint de reculer. Alain Juppé a reconnu depuis que cette réforme avait été mal préparée. Cette fois, le gouvernement a dédoublé sa partition, avec d'abord la réforme de la SNCF et la suppression du statut des cheminots. Et pour éviter d'avoir à affronter une trop forte contestation, le Premier ministre a décidé de ne pas le supprimer pour ceux qui sont déjà embauchés. Ce sont uniquement les nouveaux salariés qui ne pourront pas en bénéficier. Dès lors, il sera difficile aux syndicats de mobiliser durablement les cheminots sur quelque chose qu'on ne va pas leur enlever. Par ailleurs, les usagers et les élus, eux aussi, ont été ménagés, puisqu'Édouard Philippe a décidé de ne pas toucher aux petites lignes non rentables. Pourquoi ? Parce que cette réforme n'est vraisemblablement qu'une étape préparatoire à la deuxième phase, à ce qui va venir après, à savoir la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux prévus au début de l'année prochaine, en 2019. Là, ce sera sans doute une autre paire de manches, mais on n'y est pas. Et d'ici là, si cette réforme de la SNCF est adoptée sans trop de casse, la force de contestation des syndicats et notamment de la CGT aura été contenue, endiguée. Potentiellement, ils pourront en ressortir affaiblis. Et ça, on va le mesurer à l'occasion des élections professionnelles prévues à la fin de l'année 2018. Il y a donc avant tout dans cette réforme de la SNCF une volonté d'affaiblir les syndicats et de diluer, d'étaler les facteurs de discorde afin d'éviter ce qui avait conduit à une coagulation des contestations et au blocage du pays en 1995.
Stéphane Robert, Christian Laval, un tout petit mot peut-être là-dessus. Comment est-ce que vous décririez-vous voilà, oui, la politique à l'œuvre, cet enchaînement aussi rapide des réformes?
Bah écoutez, moi je pense à cette phrase de Bourdieu dont il sera question tout à l'heure, à savoir que la haute administration a comme ambition la démolition de l'idée de service public. Et là, plus
la
que
haute administration,
la, la haute administration, la technocratie ou l'expertocratie a l'ambition de détruire l'idée de service public et le service public en tant que tel. C'est-à-dire le fait que une société comme la SNCF ne doit pas être conduite, c'était l'idée de 1937, par des principes commerciaux ou de rentabilité, mais par des principes généraux différents, qui sont ceux de la solidarité, de l'accès universel au transport, qui sont ceux de la continuité du service public. Or, toutes ces idées-là ont été remises en cause depuis très longtemps, ce n'est pas tout à fait nouveau, et en particulier au niveau de l'Union européenne. La réforme actuelle est une accélération, au fond, d'un programme général qui concerne toute l'Europe et qui relève, effectivement, d'une rationalité qu'il faut interroger. C'est cette rationalité néolibérale, justement, que Foucault ou Bourdieu ont mis en évidence.
Voilà, et vous nous ouvrez donc l'appétit pour la dernière partie de la Grande Table où on vous retrouvera. Christian Laval, merci beaucoup d'avoir accepté de participer aussi à cette édition. Un groupe de travail parlementaire remet aujourd'hui un rapport sur le harcèlement sexuel, notamment dans les lieux publics, et il propose de créer une nouvelle infraction, ça s'appelle l'outrage sexiste et sexuel. Mélodie Vialet, bonjour.
Bonjour.
De quoi s'agit-il donc cette nouvelle infraction?
Eh bien, c'est une amende d'un montant de 90 euros. Alors vous allez me dire rien de nouveau, hein, car il existe déjà une contravention condamnation pour injure sexiste dans l'espace public. Mais là, les députés veulent aller encore plus loin. C'est-à-dire que cette contravention viserait à sanctionner les gestes déplacés, les sifflements, les regards insistants. En fait, tout ce qui peut créer une situation angoissante dans l'espace public. En clair, si un policier assiste à la scène, il peut mettre une amende. Mais pour Erwan Balanan, un des 5 députés qui présente ce rapport, cette nouvelle infraction permet avant tout de poser un interdit social.
Je fais souvent une métaphore avec le code de la route. Dans le code de la route, un jour, on a décidé qu'une ligne blanche tracée au sol, c'était un stop. On l'a appris, on le sait, et naturellement, on s'arrête maintenant au stop. Et pour autant, nous n'avons pas un policier derrière chaque stop de France. Donc l'idée est la même, c'est qu'on définit un interdit, on va faire de l'éducation, des mesures de sensibilisation, de pédagogie, et on espère qu'un certain nombre de personnes comprendront que ce sont des choses qui ne se font pas.
Et puis restons donc dans la métaphore avec le code de la route. Et puisque les députés envisagent également dans ce rapport la mise en place d'une attestation scolaire de prévention des violences et de l'égalité filles-garçons, en fait exactement sur le même modèle que l'actuelle attestation à la sensibilisation à la sécurité routière. Autre recommandation, un affichage public dans les transports en commun ou encore la création de stages dédiés à la lutte contre le sexisme. Pour cela, ce groupe de travail espère ce soir avoir la promesse de moyens financiers supplémentaires pour agir concrètement dans ce domaine.
Merci Mélodie Vialet. Le parquet de Pontoise a finalement ouvert une information judiciaire pour viol dans cette affaire initialement qualifiée d'atteinte sexuelle visant un homme de 28 ans pour une relation avec une préadolescente de 11 ans. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi cette nouvelle qualification modifie maintenant le cours de la justice ?
Alors déjà l'affaire avait fait grand bruit puisqu'elle avait été qualifiée initialement d'atteinte sexuelle. Le parquet avait estimé que la fillette de 11 ans, malgré son jeune âge, était consentante dans cette relation sexuelle. Légalement, c'est possible puisque pour l'heure, il n'existe pas d'âge minimum de consentement sexuel. Il y a juste une majorité sexuelle qui est de 15 ans en France. En dessous de cet âge, si l'on estime que le mineur est consentant, il y a atteinte sexuelle et pas viol ou agression sexuelle. Dans un premier temps, l'homme avait donc été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle, mais ce tribunal s'était déclaré incompétent au premier jour du procès. Il avait demandé une nouvelle enquête, le procès avait donc été reporté. Le parquet vient donc d'ouvrir une nouvelle information judiciaire, cette fois-ci pour viol sur mineur de moins de 15 ans. L'homme risque donc 20 ans de prison, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il doit être présenté prochainement à un juge d'instruction chargé de mener des investigations supplémentaires. Cette affaire n'est pas une première, c'est la raison pour laquelle le ministère de la Justice a demandé à une mission interdisciplinaire de travailler sur cette question en vue d'une prochaine réforme. Cette mission doit rendre son rapport demain.
Une réaction de Sophie Oconi, qui est députée UDI et qui est aussi co-auteur ou co-autrice du rapport d'information sur le viol. On l'écoute.
Vous imaginez combien, en tant que politique, mais aussi en tant que mère de famille finalement, on peut être choqué à l'idée qu'il puisse être imaginé un consentement entre une mineure de moins de 13 ans, en l'occurrence 11 ans, et un majeur. Et donc tout le principe de notre texte pour une des recommandations consistait effectivement en l'idée de consacrer avec force le principe de non-consentement d'un mineur à un acte sexuel avec un majeur en deçà d'un certain âge. En l'occurrence, nous avons, après de nombreuses auditions, décidé d'établir que cet âge serait moins de 13 ans.
Voilà, Sophie Oconi avec Bruce Toussaint ce matin sur France Info. Antoine Marette, donc il y a ce rapport qui va être rendu demain dont on vient de... qu'on vient d'évoquer, quelles peuvent être les suites parlementaires ?
Alors l'idée c'est donc de modifier la loi, instaurer un âge minimal de consentement sexuel en dessous duquel on ne prendra pas en compte un éventuel consentement du mineur et qui se traduira juridiquement par une agression sexuelle voire un viol s'il y a eu pénétration. La question est, quel doit être cet âge ? À partir de quel âge un adolescent est en mesure de dire oui ou non à la demande sexuelle d'un adulte ? Le chef de l'État fait part de son souhait d'aligner cet âge du consentement sur celui de la majorité sexuelle qui est de 15 ans en France. Le procureur de la République de Paris, François Molin, souhaite le fixer à 13 ans. Un projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes est actuellement en préparation et l'âge du consentement sexuel fait partie des axes de réflexion.
Merci beaucoup Antoine Marette. On termine avec des nouvelles de l'affaire Halimi, puisqu'après plusieurs mois de bras de fer, eh bien, le caractère antisémite dans le meurtre de Sarah Halimi à Paris, c'était en avril 2017. Le caractère antisémite donc dans ce meurtre a été retenu par la juge d'instruction Florence Turme. Pourquoi cette reconnaissance maintenant?
Alors, pour répondre à la question, il faut commencer par reprendre la chronologie de cette affaire depuis le meurtre de Sarah Halimi le 3 avril 2017 et l'émotion qu'il suscite immédiatement au sein de la communauté juive de France, émotion relayée par la tribune d'une quinzaine d'intellectuels. Le meurtrier présumé, Kobili Traoré, est interné en hôpital psychiatrique plusieurs mois avant de pouvoir être entendu. Le 10 juillet, la juge d'instruction le met en examen pour homicide volontaire, mais sans retenir cette circonstance aggravante d'antisémitisme, déclenchant une nouvelle vague d'émotions et de protestations. S'engage alors un bras de fer judiciaire dans lequel le parquet va se ranger aux côtés des avocats des parties civiles pour demander cette requalification sur la base notamment d'un rapport psychiatrique. L'expert estime Kobili Traoré responsable de ses actes, mais atteint d'une bouffée délirante aiguë au moment du crime, un crime, conclut-il, pas incompatible avec une dimension antisémite. Dans le même temps, les avocats des parties civiles réclament aussi la requalification en assassinat, autrement dit meurtre avec préméditation, et une reconstitution, demande également rejetée par le magistrat instructeur, ce qui va conduire le parquet à saisir le mois dernier la chambre de l'instruction de la cour d'appel en lui demandant de se prononcer. Elle devait examiner le dossier dans les prochaines semaines. Il semble donc que la juge d'instruction ait anticipé l'audience à venir. Hier, elle a entendu Kobili Traoré sur le fond pour la deuxième fois, lui a signifié cette nouvelle mise en examen avec la circonstance aggravante d'antisémitisme. Mieux vaut tard que jamais, commente ce matin Jean-Alex Buchinger, l'avocat des enfants de Sarah Halimi. L'instruction va maintenant se poursuivre avec cette nouvelle dimension qui permettra à la magistrate d'interroger le suspect plus précisément sur le mobile et ses motivations, qualification qui peut, cela dit, encore évoluer jusqu'au moment de son renvoi devant les assises.
Merci beaucoup Florence Turme. 47 départements placés en vigilance orange pour neige et verglas. De l'ouest de la France à l'Aube, en passant par la région parisienne, on attend un redout par le sud-ouest, 6 à 10 degrés cet après-midi, 3 à 8 sur le sud-est, 2 à moins 2 sur le nord. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.